La violence faite aux femmes est un sujet, est une réalité abjecte qu'on ne peut pas ignorer si on veut en venir à bout. Et malheureusement, les femmes en situation d'handicap sont encore plus vulnérables et le manque de ressources pour les aider est vraiment criant. Nous avons avec nous Mme Kanita Neck, qui est coordonnatrice de la mobilisation au Réseau d'action des femmes handicapées du Canada. Bonjour Mme Neck, comment allez-vous?
Bonjour, ça va bien et vous?
Ça va bien, merci. D'abord, il faut quand même dresser un peu le portrait de la situation des femmes en situation d'handicap face à la violence conjugale ou à la violence, on pourrait dire, familiale, parce qu'il peut y avoir d'autres personnes qui les menacent que leur conjoint.
Oui,
Et dans ce sens-là, avez-vous des chiffres qui illustrent combien les femmes sont vulnérables dans cette situation?
Oui, définitivement. Donc déjà, ben, comme vous avez bien dit, c'est pas toujours la violence conjugale, c'est vraiment une violence dans la famille ou même des aides-soignants. Mm-hmm. Et dans Statistique Canada, dans le recensement de 2015, ça a déjà démontré que 24% des femmes au Canada sont des femmes en situation de handicap. Et il ne faut pas oublier dans tout ça qu'il y a une surreprésentation de femmes en situation de handicap dans les prisons, les hôpitaux et même en situation d'itinérance qui n'ont pas été incluses dans ce recensement. Donc le chiffre de 24% est quand même plus petit que la réalité. Et les femmes en situation de handicap sont déjà deux fois plus susceptibles que les femmes qui ne sont pas en situation de handicap d'avoir été victimes de crimes de violence. Et deux fois plus susceptible d'avoir été victimisé plus d'une fois au cours des derniers 12 mois. Donc, c'est ça, leur vulnérabilité est quand même beaucoup plus accrue que les femmes qui ne sont pas en situation d'handicap.
Oui, parce qu'il y a une vulnérabilité qui, malheureusement, font d'elles des proies qui sont encore plus faciles, je dirais, pour quelqu'un qui a une âme violente. Là.
C'est ça.
J'ai de la misère à mettre des mots qui passent en ondes là-dessus. Oui, voilà. Mais cela dit, il y a une distinction aussi à faire, peut-être pour ce qui est de la dénonciation puis du fait de pouvoir en parler. Est-ce qu'il y a une différence entre les personnes qui vivent en situation d'handicap suite à une déficience, mettons, intellectuelle ou une déficience physique, ou c'est vraiment la même situation, quel que soit le type d'handicap?
Ben, je vous dirais que les femmes qui sont en situation de handicap plus intellectuelle, des fois, c'est encore plus difficile pour eux de se faire croire quand ils veulent raconter leur histoire de violence. C'est beaucoup plus dur de les croire parce qu'on se dit « Ah, est-ce que c'est parce qu'ils ont eu un coup à la tête, donc ils comprennent un peu moins? » Et même aussi dans leur langage, ils sont peut-être pas capables d'utiliser les mots propices. Pour expliquer. Et aussi, on les prend un peu plus comme des personnes...
On les infantilise, oui, c'est ça.
On les infantilise. Donc, quand ils expliquent qu'est-ce qui se passe, on les croit moins et on pose plus de questions qui va peut-être les mettre en situation plus de gêne et après, ils se perdent un petit peu dans leurs mots. Donc, ils perdent leur crédibilité.
Il y a aussi le fait que les personnes en situation d'handicap en général, et chez les femmes, c'est encore plus aigu, il y a aussi une pauvreté, il y a un aspect de moyens financiers qui sont simplement pas là. Alors, si elles sont coincées dans une situation dangereuse qui les menace, c'est encore plus difficile d'envisager de s'en sortir.
Oui, ça, c'est vraiment un bon point parce que beaucoup de fois, les personnes qui sont en situation de handicap sont dépendantes de quelqu'un. Soit c'est ça, leur conjoint ou dans la famille. Et s'ils reçoivent donc cette violence de ces personnes-là, ils sont dans une impasse. C'est-à-dire, je veux sortir de cette situation, mais si je ne dépends plus de cette personne-là, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais pouvoir recevoir les soins dont j'ai besoin pour vivre ma vie?
Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui, concrètement, quelqu'un qui vit une femme qui vit cette situation-là? Quelles sont les ressources au Québec, dans la région de Montréal, par exemple, qui sont à leur disposition? Parce que déjà, dans le sens large, les ressources auprès des femmes victimes de violences sont déjà minces.
Oui.
Et pour les femmes handicapées, là, on commence à avoir, on parle plutôt d'absence de ressources.
Oui, ben c'est ça. Les ressources, donc, c'est ça. Il y a des refuges à Montréal, dans la plus grande région de Montréal. Mais ce qui rend un peu plus difficile, c'est la barrière de pouvoir demander pour cette aide-là. Donc, même juste un exemple de pouvoir appeler un refuge, c'est devoir utiliser le téléphone. Donc, la personne qui est en situation de handicap, déjà, peut-elle faire un appel? Et déjà, si vous êtes bloqué dans une maison, est-ce qu'elle peut faire cet appel-là en sûreté de la personne qui donc crée cette violence? Est-ce qu'elle peut entendre cet appel-là? Donc, ça déjà, ça crée cette barrière-là de demander de l'aide. Et après, si on pense plus sortir physiquement de cette maison-là, est-ce que la personne peut avoir un transport adapté en urgence? Parce que beaucoup de fois, ces transports-là, il faut les réserver à l'avance. Mm-hmm. Et même en arrivant au refuge, il y a des refuges qui peuvent avoir ces ressources-là, mais c'est comme j'ai dit, il faut réserver ça à l'avance. Donc, avoir un interprète, il faut réserver peut-être 24 heures à l'avance, mais quand on est dans ces situations d'urgence, des fois, c'est au moment même qu'on a besoin.
Et on parle de la grande région de Montréal, mais évidemment, c'est pas différent ailleurs au Québec. Là, on n'a pas beaucoup plus de ressources dans d'autres régions. Je parlais Montréal parce que c'est là que je vis, puis j'essaie d'imaginer comment ça peut se passer. Mais c'est vrai que cette situation-là, il faut comprendre aussi que dans le cheminement d'une femme qui essaie de sortir d'une spirale de violence, il y a ce qu'on appelle les refuges qui sont les premières étapes, qui sont pour pallier à une urgence, mais d'habitude à court terme.
Mm-hmm. Oui, donc c'est ça, il y a les refuges, c'est la première étape d'urgence qui vont donc accueillir ces femmes sans handicap et avec handicap, qui vont les recevoir et vraiment... les garder peut-être un mois, mais après, il y a des refuges de deuxième étape. Mais pour les refuges première étape et deuxième étape, il y a une absence de services pour les femmes en situation de handicap. Même juste physiquement, est-ce qu'il y a des rampes d'accès? Est-ce qu'il y a des signes dans la maison pour que la personne soit confortable? L'emplacement des chambres? Donc, il y a quand même beaucoup... de barrières, même quand on est dans la maison, dans ces refuges-là, en personne.
Et qu'est-ce qui peut être fait pour corriger la situation? Parce que vous êtes, vous travaillez auprès d'un organisme qui, au Canada, est connu, un Canada anglais, est connu sous le nom de DAWN, Disabled Women Network. Et en français, c'est le réseau d'action pour les femmes handicapées. Qu'est-ce que votre organisme peut faire pour... corriger la situation parce que c'est essentiellement un appel au gouvernement?
Oui, ben c'est ça. Donc, essentiellement, nous, au Réseau d'action des femmes handicapées du Canada, on fait beaucoup de recherches et d'études pour donc démontrer ces lacunes et pouvoir donc les amener un peu plus haut donc au gouvernement. Et on travaille avec d'autres organismes qui sont plus communautaires à travers le Canada pour comprendre et faire des études pour savoir où sont toutes ces lacunes-là pour pouvoir rassembler ça et pouvoir... leur amener un petit peu plus haut pour leur dire que vraiment il y a un manque pour ces femmes-là. Et je crois vraiment avec la COVID, ça a vraiment mis lumière sur les manques d'aide pour les femmes en situation de handicap.
Oui, en général, parce que évidemment dans une situation de coercition et de violence, le confinement imposé à tout le monde fait que ça boucle le couvercle sur la marmite. Là, ça fait simplement... une recette encore plus explosive et encore plus dangereuse pour des personnes qui sont en situation vulnérable. La frustration, les questions financières, la dépendance physique de la personne en situation d'handicap, tout ça est exacerbé et on a vu en même temps que les services à la disposition de la population sont eux aussi un peu étirés. Il y a eu des lacunes qui sont devenues plutôt évidentes au cours du confinement. Alors là, c'est simplement pire pour cette situation-là. Mais est-ce qu'il y a des numéros, est-ce qu'il y a quelque chose que des gens peuvent faire pour aider ou quelque chose qu'une femme en situation d'handicap peut appeler ou à quoi est-ce qu'elle peut s'accrocher?
Ben oui, il y a des numéros, je vous dirais, je les ai pas avec moi, mais c'est ça, il y a Relais Femmes hein, qui peuvent définitivement indiquer où aller chercher de l'aide. Et nous aussi, dans le Canada, vous pouvez toujours nous envoyer des messages et on peut vous pouvoir dire où aller, quelle aide est-ce qu'on peut apporter. Nous, on ne donne pas de service direct, mais on sait qui peut les donner. Donc, on est toujours une bonne ressource.
Donc, vous pouvez vous parler de Relève Femmes, R-E-L-A-I-S, Femmes. Femmes au pluriel, au singulier?
Au pluriel.
Au pluriel. Et ça, ça se trouve sur le web? C'est, comment ça marche?
Oui, vous pouvez trouver ça sur le web. Et vous pouvez avoir plus d'informations là pour savoir où aller. C'est ça parce qu'aussi, beaucoup de refuges, ils ont aussi des informations en ligne, mais je dirais qu'ils ne sont pas toutes des informations sur l'accessibilité.
D'accord. Sinon, c'est presque dépendre que le système vous reconnaisse ou vous identifie, parce qu'évidemment, une femme en situation d'handicap peut ne pas avoir accès au web. Il faut qu'elle ait l'Internet. Un, deux, il faut qu'elle soit capable de s'en servir. Donc, cette ressource-là est comme davantage dédiée aux personnes qui sont autour d'elle ou qui peuvent identifier qu'il y a un problème. Mais c'est certain que c'est une situation... épouvantable qui est vécu. Et ça, c'est la maison à côté de chez nous, c'est la maison de l'autre côté de la rue, c'est quelqu'un qu'on connaît un peu de vue ou quoi que ce soit, puis on ne sait pas ce qui se passe derrière les murs et comme ça devient très difficile. Et ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a pas de ressources pour les aider une fois qu'elles ont eu le courage de demander de l'aide.
Ben c'est ça, oui.
Alors, il faut continuer à pousser sur les gouvernements dans ce sens-là parce que ça va devoir de prendre de l'argent puis une volonté politique. Bien, Mme Kanita Neck, je vous remercie beaucoup. Vous êtes coordonnatrice à la mobilisation au réseau d'action des femmes handicapées du Canada et on espère que chaque petite pierre qu'on pose va permettre de bâtir quelque chose. Merci.
Oui, définitivement. Merci beaucoup.